des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous? C'est Clotilde Say qui vous parle bien sûr dans le studio de Canal M où je suis très très heureuse de vous convier une nouvelle fois pour vous partager des lectures formidables. Vous allez voir, c'est encore une belle émission, j'en suis tellement contente, aujourd'hui je suis quelqu'un d'ému. Ça va sentir parce que je suis énervée au micro. Puis dans ces cas-là, ça veut dire que je suis émue, je suis touchée parce qu'il y a quelqu'un en studio que j'aime beaucoup et qui nous fait l'honneur de sa présence. D'abord, je vais m'entretenir au téléphone avec Bernard Tremblay et puis je vais me retourner vers Sylvie Drapeau. Oui, Sylvie Drapeau qui est là, je vous l'avais annoncé la semaine dernière. Et on va parler avec Bernard Tremblay et avec Sylvie de ce livre « Le fleuve ». Et puis en seconde partie, l'inénarrable, l'incontournable Gérard Saint-Denis va venir nous parler aujourd'hui de livres qui concerne la Chine. Alors ne manquez pas une nouvelle fois cette émission, restez avec nous. J'ai hâte. Bernard, il est là. Bonjour Bernard.
Bonjour, Clotilde.
Bernard Tremblay, une nouvelle fois avec nous. J'en suis très heureuse. C'est un peu... c'est pas un hasard cette fois-ci. Hein. C'est quelque chose qu'on a un peu provoqué, Bernard, parce que vous avez une jolie histoire, je pense, à nous raconter autour du livre « Le fleuve » et autour de Sylvie Drapeau. D'abord, que je voudrais saluer. Bonjour, Sylvie.
Bonjour.
Et merci d'être là.
Ça me fait plaisir. Bonjour à Bernard aussi.
Bonjour à Bernard. Alors, Bernard, je voudrais que... Parce que moi, vous me l'avez raconté lorsqu'on s'est parlé, et je voudrais que vous nous racontiez cette belle histoire.
Oui. Ben, quand votre livre est paru à l'automne, ma compagne et moi, nous sommes allés l'acheter tout de suite et elle nous en a fait la lecture à voix haute.
Oui.
Et ensuite, je l'ai réécouté quand il est devenu disponible dans le service, dans le SQLA. Ah, quel beau roman.
Merci beaucoup. Vous avez été touché.
Non, c'est à moi de vous dire merci. Je pratique le conte et je sais comment c'est difficile de trouver le mot juste et juste les mots qu'il faut. Oui. Et c'est ce que vous avez fait.
Oh, merci. C'est vrai que c'est plus long faire court.
Oui.
Quelle belle expression.
Il faut faire beaucoup de ménage. Il faut épurer, oui. Puis aller à l'essentiel, à l'essence même de la pensée, de l'émotion. Oui. Merci. Oui.
Vous nous avez amené justement dans l'émotion, dans les émotions, mais aussi à Bécomo, que moi je ne connais pas, mais que ma compagne connaît bien.
Ah oui.
Et elle a tout reconnu, et moi j'ai tout vu dans ma tête aussi.
Wow. Elle est native de Bécomo?
Non, elle a de sa famille qui est là, entre autres.
Mais elle connaît la Côte-Nord, en tout cas.
Mm-hmm. Oui.
C'est vrai, les gens qui viennent de la Côte-Nord reconnaissent dans l'écriture le coin de pays. C'est écrit, il semblerait que la Côte-Nord est écrite.
Ah, oui. Moi, je suis pas native de la Côte-Nord, évidemment, mais j'aime beaucoup me perdre dans ces régions-là où je vais quasiment ou presque tous les ans, parce que c'est un besoin physique en plus. Moi, j'ai besoin physiquement du fleuve et c'est vrai qu'on se retrouve dans chaque méandre du fleuve et jusqu'à Bécomo. Cher Bernard, vous aviez aussi, il y a un livre aussi pour vous qui est très important et vous aviez envie de nous en parler aujourd'hui.
Oui, justement, ma compagne Louise m'avait recommandé la lecture des Forces de l'âge.
Oui.
De Michel Coulombe.
Oui.
Il a réuni 14 duos inspirants.
Oui.
Et le mot est là aussi très juste.
Oui.
Il parle du vieillissement et comment on peut se sentir et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et dans ces duos, il y en a un qui m'a beaucoup touché, parce qu'on parle de tradition orale et de contes et de légendes.
Oui.
C'est le duo de Boucard Diouf et du père Benoît Lacroix.
Ah, que nous venons de perdre il y a quelques semaines.
Et oui. Et en plus, le sous-titre, c'était « Les deux hommes du fleuve ».
Ah!
Oh wow!
C'est formidable!
Oui. Boucard, bien sûr, qui a été longtemps à Rimouski. Et le père Benoît Lacroix, qui est de Saint-Michel-de-Bellechasse. Et Boucard, d'ailleurs, le week-end dernier, a écrit un texte sur le décès du Père Lacroix.
Oui, oui.
Et il a dit, on sentait que dans cet homme, le fleuve coulait dans ses veines.
Mm-hmm. Ah, quelle belle expression.
Ouais.
Et alors, est-ce que vous vous souvenez... Oui, pardon, je vous ai interrompu, Bernard.
Oui, et le Père Lacroix, dans l'entretien, c'est une série d'entretien, ce recueil, disait de l'importance pour nous d'aller revisiter nos souvenirs, de se les réapproprier. Et quand on les visite, on se rend compte parfois qu'ils sont beaucoup plus riches qu'on pensait.
Wow.
Et que ça peut être une forme de renaissance aussi.
Wow! Oui. Ça me touche par rapport au fleuve.
Ben oui, oui.
Mm-hmm. Merci.
Ah, je vous en prie.
Est-ce que on peut citer quelques autres couples qui font partie de cette merveilleuse aventure-là? Parce qu'il il y en a qui sont, bon, ben, qu'on n'a pas voulu séparer. Je pense à Pierre Curzi et Marie Tifo.
Oui, il y a aussi, on a mis ensemble Louise Portal et Jeannine Souto.
Ah oui!
Manon Barbeau et Raymond Cloutier.
Oui, justement, Manon Barbeau, oui, dont je vais recevoir Anaïs la semaine prochaine. Et vous avez aussi Gilles Duceppe avec Serge
et
Bouchard.
Serge Bouchard, oui.
Oh, ça, ça...
Ils se sont connus à l'école.
C'est vrai?
Oui.
Oh là là! Il y avait aussi Marcel Sabourin et Gilles Vigneault. Non, mais, non, mais ça devait être assez extraordinaire. Merci. Et alors, est-ce que vous vous souvenez... Bon, je pense que vous devez être un petit peu plus jeune que moi, mais... Oui, pardon?
Peut-être de quelques heures.
Peut-être de quelques heures. Mon Dieu, quelle élégance, Bernard. Je vous adore. Mais qu'est-ce qui vous a touché le plus dans leurs propos? Est-ce que vous avez quelques souvenirs dans leurs propos, justement, sur ces rides qui nous viennent au front, sur ces rides au cœur aussi que nous avons tous?
Oui. Ce que j'ai remarqué chez beaucoup d'entre eux, c'est on doit faire face à des pertes et à des deuils. Plus le temps passe, bien sûr, mais que tout ça, excusez-moi, je reviens de l'entraînement et je suis un peu à chaud. Et donc, peut-être moi aussi un peu ému.
Oui.
Que c'est important de bien vivre les moments et les émotions, de ne pas reporter ça. De toute façon, on sait que la date butoir s'approche, même si on ne la connaît pas.
Mm-hmm.
De vivre nos passions, et si on peut, si on a la chance de les partager avec d'autres. Moi, je pense à mon cas à moi, il y a 7 ans, je suis devenu handicapé visuel.
Mm-hmm.
Ça m'a claqué une porte au nez, mais j'en ai ouvert et entr'ouvert d'autres depuis, entre autres le compte.
Ah,
et
oui.
Moi, qui étais un grand timide, ben ça m'a rapproché des gens. Parce que je me suis retrouvé avec des histoires qui me touchaient, qui me réjouissaient et qui m'éclairaient souvent.
Oui.
Et je me disais, mais je ne peux pas garder ça pour moi tout seul.
Ah. Et alors donc, vous en écrivez maintenant des contes?
Parfois.
Oui.
Mais en fait, le mot écrire, c'est que je ne les pose pas sur papier, ils restent dans ma tête et dans mes oreilles.
OK.
Je pratique vraiment ça à la tradition orale.
OK.
D'ailleurs, c'est souvent comme ça que je recueille des nouvelles histoires.
C'est ça, parce que vous auriez pu les enregistrer au fur et à mesure?
J'ai été collecté. C'est le terme qu'on utilise quand quelqu'un nous enregistre.
Oui.
Donc, je sais que j'ai une ou deux de mes histoires qui se racontent en Ontario, en Acadie et à Vancouver.
Mais écoutez, est-ce que je peux vous lancer une invitation, Bernard?
Ah, volontiers.
Ben, que vous veniez un jour à cette émission nous raconter un conte.
Ah, ça me ferait plaisir.
Ah, je viens de toucher quelque chose. Et vous assistez à des soirées, hein. Vous m'avez déjà invité, puis pauvre de vous, je n'ai pas un agenda toujours très facile. C'est ça, il y a des soirées du conte qui existent à Montréal, notamment, où des gens comme ça, bénévolement, viennent raconter des contes.
Oui, entre autres, le 3e jeudi du mois, il y a le Cercle des conteurs de Montréal qui se réunissent à la Maison d'éducation populaire sur la rue Drolette.
OK. C'est vraiment sur le plateau? C'est à la hauteur quoi, de la rue Mont-Royal par là? Je ne connais pas du tout.
C'est entre Rachel et Marianne.
Ah oui, en effet, oui.
Il y a aussi les Dimanches du Conte et le Ballet des Conteurs et quelques autres. Les Dimanches du Conte, c'est très facile à trouver sur le web.
OK. Non, écoutez, je vous promets, je sais que je vous fais la promesse depuis quelques mois, mais un jour, je vais bien finir par atterrir là. Vous savez comment j'aime les mots, Bernard, aussi. Et puis,
Oui.
Voilà. Écoutez, Bernard, je voudrais vous remercier infiniment, encore une fois, d'avoir participé à cette émission des Livres pleins les oreilles aujourd'hui. Je rappelle que vous avez vous-même lu deux fois plutôt qu'une Le fleuve de Sylvie Drapeau et que vous êtes venu nous en parler aujourd'hui. Et également, Les forces de l'âge. 14 duos inspirants qui témoignent du temps qui passe. Ce sont des propos collectés par Michel Lacombe. Coulombe, pardon, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai mis Lacombe sur mon... Ah, c'est ma journée aujourd'hui. Alors, Michel Coulombe, pardon, bah oui, bien sûr, on connaît bien Michel Coulombe. Et je rappelle que ce livre-là, ces deux livres-là, sont maintenant disponibles via le SQLA.
Oui.
Merci beaucoup, Bernard.
Je vous en prie.
Et puis, à très bientôt. Et n'oubliez pas mon invitation. De toute façon, je vais vous rappeler, puis on va fixer une date.
D'accord.
Au revoir et prenez soin de vous. Allez prendre une bonne douche, là, après le sport.
Oui.
Allez, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci.
Merci.
Au revoir. Sylvie Drapeau, rebonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez certainement été touchée, ça doit vous faire... Quand vous entendez parler comme ça les gens de votre livre Le fleuve, parce qu'on ne peut pas rester indifférent à ce texte-là, c'est un texte très émouvant et qui nous émeut beaucoup à chaque page, qui nous fait sourire aussi parfois, et qui nous fait du bien, et qui nous fait triste parfois. Et quand on vous le dit comme ça, comme Bernard vient de le faire, je sais que Serge Boucher aussi est un de vos admirateurs.
Oh, et c'est réciproque.
Et voilà, et donc vous avez ça...
Ça me touche infiniment.
Ça vous bouleverse, hein, ça vous touche.
J'ai pas trop réfléchi à ça lorsque je l'écrivais, c'est-à-dire à ce que ça provoquerait ou des choses comme ça. J'étais plutôt dans l'essence. Ça s'est fait sur plusieurs années parce que, évidemment, je continuais ma pratique d'actrice.
Bien sûr, d'actrice.
Hein. Je continuais mon métier, mais sur plusieurs années, donc, je planchais là-dessus, puis je peaufinais beaucoup les phrases jusqu'à ce qu'elles me plaisent. Et donc, c'est très long avant de débusquer vraiment la pureté d'une phrase. Fait que j'étais plus dans ce travail-là du monde intérieur, puis de traduire le monde intérieur. Puis à présent, je suis dans la réception de l'effet que produit ce monde intérieur qui est le mien, mais sur le monde intérieur des autres. Ouais. Alors, c'est un échange qui commence, qui me touche infiniment.
C'est fou ce que vous dites, parce que je me suis posé la question, et bien évidemment, je vous l'aurais posé, c'est que c'est pas qu'on sent qu'il y a du labeur, parce que sinon, ce serait pas bien écrit. On sent pas le labeur, mais on se dit, c'est pas possible que c'est... Est-ce que ça lui est venu comme ça, tout au
non,
fil de la
plume? Non, c'est très long.
C'est
très long, hein. mais c'est pas quelque chose de... Le labeur, moi, j'aime bien ce mot-là. J'aime travailler.
Vous aimez travailler.
J'adore travailler.
Je voudrais, par exemple, vous citer, si vous me le permettez, parce que c'est une des phrases qui m'a tellement touchée. À un moment donné, vous parlez des animaux. Mm-hmm. Et il aurait été surréel de penser caresser un lièvre, par exemple, ou d'amadouer une famille de perdrix. Et là, vous dites... Nous avons toujours le sentiment d'être les premiers humains de leur vie. C'est parce qu'ils se sauvent. Hein.
Oui.
Alors, nous avons toujours... C'est tellement ça.
C'est ça.
C'est là où votre livre nous prend à la gorge. Et je vous dirais que pour moi, c'est tellement un immense poème.
Oui, c'est poétique parce que c'est une vision du monde. Hein.
Voilà. Ça ne pouvait pas faire 500 pages.
Non.
Ça aurait été quasiment trop.
Non, c'est ça.
Comprenez-vous, il fallait que ce soit une bulle.
C'est un peu, vous savez, quand on a de l'huile essentielle de lavande, par exemple, on a tout le champ dans un petit pot.
Oui.
Ça a ce caractère-là.
Oui, tout à fait.
Tu sais, c'est une réduction, c'est une... je sais pas comment dire. C'est, l'huile essentielle, pour moi, c'est vraiment... Ça parle de...
Mais c'est un livre essentiel.
Je sais pas, mais c'est ce que je cherche dans l'écriture.
Ouais.
Cette réduction jusqu'à l'essence
absolument.
De ce que j'éprouve.
Nous sommes au début du livre et c'est beaucoup dans le jeu, vous êtes la petite fille,
oui, oui,
et
oui,
cette petite
narratrice.
Fille, la narratrice qui court après ce grand frère qu'elle adore,
oui.
qu'elle, bon, pour qui elle nourrit quasiment une dévotion. Alors,
oui.
là encore, je vous cite, je cours, je dévale la pente en volant par moments. Attends-moi, Rock, mon cœur est à toi avec toute la ferveur de mes 5 ans. Et là, une amoureuse de 5 ans, c'est puissant, avec un point d'exclamation derrière. Et je me suis dit que c'est un livre, j'ai l'impression qu'il s'est écrit à voix haute.
Effectivement, je relisais pour voir, je finis toujours, il y a des grands, grands moments de silence, mais il y a aussi des moments où je sens le besoin de parce qu'elle s'adresse, hein, la narratrice, à Rock,
oui.
elle s'adresse à son frère.
À son frère.
Donc, c'est quelque chose, ça a à voir avec la parole
oui.
incarnée.
Oui.
Alors, effectivement, je travaillais comme ça, à voix haute, souvent.
Narration totale, fiction totale.
Oh non, mon frère s'est noyé lorsque j'avais 5 ans,
c'est
bien
vrai.
Sûr.
D'accord, oui, mais...
Alors non, c'est
je voulais vous l'entendre dire,
oh,
quoi.
Oh, complètement, c'est notre vie.
Oui, c'est ça.
Mais comme dit ma sœur Christine, j'adore sa version des faits, elle dit « Ah, oh, c'est nous, mais c'est pas nous
ah. ».
Et là, j'ai fait « Yes, c'est un roman ».
Bravo.
Parce que moi, je n'étais pas intéressée par l'autobiographie.
Non, c'est pas ça.
C'est un poème que je voulais faire.
Exactement.
C'est ça.
Et c'est exactement, encore une fois, ce que j'ai senti. C'est un poème qui dure 72 pages.
C'est ça.
Et il n'aurait pas pu être beaucoup plus long, encore une fois. Autre chose, d'où vient cette idée des loups, de la meute? C'est parce que vous étiez tissés très serrés? C'était comme une
aussi,
fratrie?
Oui, parce qu'on était nombreux, on était...
Vous étiez combien?
Dans le roman, ça m'intéresse pas d'aller dans l'anecdote.
Non, c'est ça.
Alors, c'est jamais dit la
non,
ville,
c'est ça.
C'est jamais
non,
dit...
Non.
Et puis d'ailleurs, il y a que le nom des morts qui soit prononcé.
Ouais.
Mon frère s'appelait effectivement Rock.
Ok.
Alors les vivants, je les laisse.
Oui.
Ils sont les seconds rôles. Ils sont la.
Oui.
Comme on dit, ils sont les vivants. Ils sont la figuration.
Oui, 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 oui. Oui
parce
je
que c'est par respect. Je les laisse tranquilles.
Oui.
Les morts, ça leur fait pas de mal.
Ah oui.
D'autant plus que c'est un hommage.
Bien sûr.
Et
alors.
Aux vivants aussi, à ma
oui.
famille.
Alors, c'est un hommage
oui.
à ce frère,
ouais.
au fleuve,
ouais.
parce que ce fleuve-là, ce fleuve qui sépare le nord du sud,
c'est, ouais.
c'est très important, on va en reparler, mais donc un fleuve qui sépare, un fleuve qui est un compagnon de jeu,
oui.
donc, un fleuve qui séduit,
qui est toute beauté,
qui est de toute beauté, et un fleuve qui engloutit
ouais.
ce frère.
Qui peut tuer
et qui a tué,
ouais.
sous vos yeux.
Oui.
Est-ce que vous lui en avez voulu?
À qui? Au fleuve?
Oui.
Oh! Ben,
est-ce que vous l'avez détesté parfois?
Un peu comme dans le livre, il est à la fois pour moi magnifique, sublime,
ouais.
et terriblement épeurant.
Oui,
ouais, tout ça.
Ouais.
Tout ça à la fois. Comme la vie, non?
Mais oui, exactement.
Je suis en train d'écrire la seconde partie du fleuve. Puis la jeune femme, parce que la narratrice, alors, ouais. dans la vingtaine, parle d'un jardin de mines.
Ah oui.
Bah, c'est sa vision de la
ouais.
vie. Mon ouais. Dieu, que c'est ouais. dangereux.
Oui, oui. Ouais.
Et alors, mais dès l'enfance, elle a été initiée à cette notion de danger.
Et c'est vrai que ça l'est, parce qu'on a tous connu à marée basse. Je peux vous dire, moi-même, j'ai failli me noyer à marée
c'est
basse.
C'est ça, c'est terriblement dangereux.
Quand on tombe dans un trou comme
oui.
ça et qu'on ne sait pas nager.
C'est la fin.
C'est ça, exactement.
Ouais.
Non, non, je comprends tout à fait. Et puis, il y a des images qui reviennent tout le temps. Je ne sais même pas si vous avez fait attention, mais moi, il y a quelque chose qui m'a... Ce sont les fruits. Les fruits. Vous avez toujours les jours rouges.
Ouais.
Il y a les cerises, les mûrises.
Les pommes, les pommettes.
Les pommettes. il y a les framboises, évidemment.
Oui.
Il y a les bleuets. Alors, lorsque vous allez dans le nord, ah, ça, c'est très joli.
Chez nous, au nord, c'est
quand
plus
vous
aride.
Dites, oui. Ou là, vous dites que là, on saigne pour vrai.
Ouais, ouais.
C'est ça, hein.
Ouais.
Mais je ne sais pas. En tout cas, j'avais envie de vous le pointer du doigt et puis de le pointer du doigt à nos auditeurs. Alors, il y a ce fleuve, donc, frontière entre le nord et le sud. Alors, c'est ça. Donc, vous êtes du sud, Baie-Comeau. Enfin, comme vous dites,
non,
on ne sait pas.
Non,
c'est
le contraire.
C'est le contraire,
nord.
C'est ça, du nord.
La
ah, OK, d'accord.
La côte sud, c'est le pays de Boucardiouf, mais
oui,
enfin, son second
ça.
Pays,
oui, oui,
c'est Matane,
c'est ça, exactement.
C'est ça.
Et alors, il y a ce traversier sur lequel vous êtes
ouais.
malade à chaque fois. Ça aussi, ça m'a rappelé un souvenir que j'aurais préféré ne jamais... Alors... La mort du frère, c'est un moment qui est à la fois magnifique dans le livre et quasiment insupportable.
Comme ça l'était.
Comme vous l'avez vécu.
Oui.
Et ce qui est incroyable aussi, c'est la suite de ça. Par exemple, le cri de la maman.
Oui.
On l'attend tellement.
Oui.
Il tarde tellement à venir.
C'est ça.
Et lorsqu'il arrive...
Il déchire tout.
Il déchire tout. Mm. Et c'est là aussi où je trouve que votre livre est d'une intelligence et d'une... j'arrive pas à trouver le mot pour le moment, alors je vais y revenir. On attend ce cri et on attend ce geste aussi. Ça, je le dirai pas à la toute fin. Mais lorsqu'il arrive, et là, j'avais quasiment avoir du mal à le dire, tellement j'étais touchée hier en le lisant. Tout d'un coup, parce que on n'est jamais dans l'attente de ce geste-là, bizarrement. Il n'est jamais dit dans ce livre-là qu'on l'attend, ce geste. Mais il est tellement latent. Il est tellement là, sans être réclamé, sans être voulu, sans être... Et lorsqu'il arrive, et lorsqu'arrivait ce cri et ce geste, je pense que c'est ce qui nous laisse autant imprégnés de ces 70 pages-là. Et avez-vous vécu avec un sentiment de culpabilité insupportable?
Oui, bien sûr. Il faut que, encore
faut que ça sorte.
Même encore maintenant, aujourd'hui, j'ai 54 ans, puis faut que c'est encore quelque chose dont je dois me départir. C'est pas si facile.
Même le livre n'a pas réussi à vous...
Bien...
À faire en sorte que vous vous...
Mais c'est très beau, le monsieur Bernard, tantôt, ce qu'il a dit. Quand oui. Il a dit « revisiter les souvenirs pour renaître ».
Oui.
Il me fait réaliser ce pourquoi je fais ça. Pourquoi je suis en train d'écrire aussi la deuxième partie.
Vous ne l'aviez pas réalisé?
Non. C'était impulsif, c'était plus fort que moi. Vous savez, ces choses qu'on fait quand c'est plus fort que nous. Parce que franchement, on est une comédienne, puis on se dit « je vais écrire un roman ». Il y a plein de phrases dans notre tête, de pensées qui nous viennent pour qu'on fasse le contraire. Hein? Mmh. Ben non, c'est pas le moment à 50 ans de commencer à écrire un roman. Et alors que quand c'est plus fort que nous, il faut le faire, quoi que ce soit. Et là, c'était plus fort que moi. Mais revisiter, ouais, c'est beau. Mais c'est aussi pour donner un peu de résilience à toute ma famille. En fin de semaine passée, je l'ai lu à mes sœurs qui sont, mon père non plus, ils sont incapables de le lire parce que c'est une blessure encore trop ouverte. C'est difficile à fermer. Et donc, mes sœurs, à Noël, une de mes sœurs, elle m'a dit « Oh, écoute, j'ai honte, Sylvie, je ne l'ai pas encore lu. » Une autre sœur a dit « Oh, moi non plus, je ne sais pas comment... » Puis là, la plus jeune a dit « Bien, si tu nous le lisais, il me semble que ça nous faciliterait la vie. » Et alors, on s'est réunis et je l'aurais lu à deux de mes sœurs. Et ça a été un beau moment, mais ce n'était pas facile. C'est pas facile. Mais maintenant, il y en a deux qui l'ont lu un peu comme Bernard l'a lu, en l'entendant.
Oui.
Et puis, c'est comme ça. Mais c'est ça, la vie, c'est difficile.
C'est difficile. C'est d'ailleurs, difficile. Quand on dit, je n'arrêtais pas de penser à cette expression, la vie n'est pas un long fleuve tranquille.
Il y a tout ça dans le titre.
Mais
hein?
Oui, bien sûr.
Il y a tout
sûr,
ça, c'est le fleuve
sûr.
Des larmes,
bien
c'est
sûr.
Le fleuve de l'amour. C'est, oui. Le fleuve, oui. C'est quelque chose qui coule et qui est puissant.
Ah, ben absolument. Et il y a aussi quand même de formidables belles pages de renaissance.
Oui, Dieu merci, il y a de la lumière.
Comme le retour à la vie ici, en page 53, j'avais pris cette note-là aussi, retour à la vie. Un soir où nous sortons en balade, papa ralentit la voiture pour que nous voyions le ciel s'embraser au couchant, le feu partout sur le lac.
Oui.
C'est sublime. Et ça, vous savez à quoi ça m'a fait penser? Je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, peut-être l'avez-vous pas vu, mais le film Le Cercle des Poètes Disparus,
oui.
Au lendemain du suicide
oui.
De l'un d'entre eux,
oui.
Je pense que c'est Danao qui sort et qui voit le lever du soleil
oui.
sur les bois et après une chute de neige. Et là, les couleurs sont sublimes.
C'est oui, c'est la beauté qui côtoie.
La beauté.
Et parfois l'horreur.
Le lait.
L'horreur,
voilà.
La souffrance et là, extrême. Et puis tout à coup,
voilà,
il y a quelque chose d'infiniment beau juste à côté.
Et là, il se tourne et il dit à ses copains, « Mais merde, c'est beau. »
Oui, c'est ça.
Je sais pas si vous... Et ça ce moment-là, encore une fois, m'a tiré les larmes. Et j'ai revu exactement cette
c'est
scène
ça.
De film et je me suis dit...
Mais pour que ça touche, je crois qu'il faut prendre le temps de le lire.
Oui.
C'est fou, hein?
Malheureusement, on ne peut pas vous garder une heure de temps pour que vous nous le lisiez en entier.
Oh.
Et je le regrette bien, mais je voudrais, s'il vous plaît, peut-être vous demander que vous nous lisiez peut-être...
Le début. D'accord.
Regardez, nous avons 3 ou 4 minutes devant nous, alors...
3 ou 4 minutes? Alors, je vous lis simplement le début.
D'accord. Je rappelle que j'accueille Sylvie Drapeau, j'ai oublié de le repréciser, pour le livre Le Fleuve.
Par beau temps, sur le fleuve, il y a comme des diamants qui flottent, qui pétillent et qui rient. Lorsqu'on remonte, lorsqu'on revient de ces profondeurs, à un moment, je suppose, toute cette lumière vous explose au visage. Il y a toujours eu le fleuve. Il était là, en bas de la colline sur laquelle était juchée notre maison. On pouvait le voir au loin de la fenêtre de la salle à manger. Une forêt noire nous séparait de lui. Immuablement présent dans le paysage de l'enfance, il faudra pourtant un jour le longer pour quitter la côte nord et atteindre le sud-ouest et ses grandes villes qui te demeureront à jamais inconnues. Mon frère, le fleuve nous deviendra alors presque étranger car trop loin du regard. C'est que, tu vois, la vie d'adulte sera devenue pour nous, la meute, une succession d'allers-retours entre son embouchure large et sauvage et son rétrécissement civilisé. Même après que la meute a été disséminée, l'océan m'aura, comme ça, toujours rappelé vers l'enfance, papa, maman, la meute et toi, notre frère. Voilà, ça c'est le début. Ça commence comme ça.
Et je suis une nouvelle fois très, 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 très émue. Il y a ces mots aussi en page 31. Il nous reste plus que 2 minutes. Impossible de dire autre chose que la vérité puisque tu n'es plus là et que de toute façon, c'est terminé, virgule, la joie. Le monde peut bien exploser et nous avec. Est-ce que c'est difficile d'écrire?
Non, j'aime tellement ça. Quel bonheur,
vrai.
Quel privilège. Oh mon Dieu, que je me suis fait un cadeau en me permettant d'aller vers l'inconnu comme ça. Mon Dieu, qu'on ne doit pas se retenir jamais quand on a
c'est
une
vrai.
Impulsion. Il ne faut pas écouter les voix dans la tête qui disent « mais non, il est trop tard » ou tu sais, les niaiseries
qu'on entend
dans notre tête. Il
ne
faut pas les écouter. Il
okay.
faut tous faire ce qu'on a à faire, toujours, toujours. Et je me suis fait ce cadeau.
Sylvie Drapeau, juste un petit mot de théâtre quand même. Vous préparez
oui.
en ce moment des choses?
Oui,
vous
je prépare beaucoup de choses. C'est foisonnant. J'apprends mes textes parce que cet été, je vais jouer au Bic, Le Bonheur,
oui.
un texte magnifique au Théâtre du Bic. Tout l'été, je vais passer l'été au bord du fleuve, justement.
Oh.
J'aurai un chalet, comme un nid d'aigle.
Oui.
Et puis... Je suis tellement contente. Une très belle pièce au Bic. Puis à l'automne, au Théâtre d'aujourd'hui, la troisième et dernière partie de la trilogie de Jennifer Tremblay au Théâtre d'aujourd'hui.
Merci infiniment. Merci d'être venue, mais merci d'avoir écrit ça. Puis
merci
de nous faire une suite.
De m'accueillir à tous les niveaux, en le lisant, puis ici.
Tous les auditeurs et moi-même, nous vous embrassons beaucoup, 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 beaucoup. Et on a bien hâte de vous revoir sur scène.
Merci beaucoup.
Au revoir, Sylvie Drapeau.
Au revoir.
Des livres pleins les oreilles, seconde partie, et que diriez-vous qu'on vous amène faire un petit tour en Chine, un petit tour littéraire évidemment. Et cette petite fille-là, elle vient de dire sur la musique de Jean-Michel Jarre, « Bienvenue Gérard Saint-Denis ».
Bonjour madame. Vous parlez de la Chine, ah, c'est merveilleux.
Hein? Écoutez, un
moi,
beau petit voyage.
En 1975, je suis allé à Canton, à partir de Hong Kong, une journée en train. Et j'étais avec un ami et on a loué les services d'un Chinois qui nous a transportés dans sa carriole qui tirait comme un cheval.
Oui.
Toute la journée.
Ah oui, hein?
Et il nous demandait $1.
Ah, mon Dieu!
Et on lui a donné $5, il braillait comme un enfant.
Ah.
J'avais été très impressionné. Il avait les jambes... des petites jambes de rien. Puis, des fois, je me disais à mon ami, est-ce que tu le fouettes pour qu'il
fonctionne
aussi vite que ça?
Bon.
Mais c'était la période, il y avait des bicycles.
Oui, bien sûr. C'était pas la Chine que l'on connaît maintenant.
Non, non, non.
Ben, du moins, attendez, parce que la Chine rurale, c'est pas encore très, très développé, on s'entend,
non.
Là, mais la Chine urbaine, c'est une vraie machine, si vous me permettez l'expression. Dites-moi, mon ami, vous voulez nous perler?
Oui, j'ai envie de vous perler, mais en français,
oui.
Avec un premier roman de base. Si vous voulez lire juste une chose, je vous offre au SQLA Les Chinoises.
Oui.
C'est de Renaud Bourrette. C'est parce que c'est un roman, mais c'est un roman qui explique bien la Chine des années 90, où on commençait à penser être capable de se moderniser. C'est une époque où le pays est en pleine transformation.
Uh-huh.
En pleine transformation. Et on voit le rôle des générations. On n'est pas habitué à ça, nous autres. Les grands-pères, le grand-père qui a toute l'autorité encore. Beaucoup. Les femmes qui ont beaucoup d'autorité. Beaucoup d'autorité.
Mm-hmm.
On n'a pas cette impression-là.
Non, c'est vrai. Et pourtant, c'était ça. Oui.
Et moi, qui ai fait beaucoup de généalogie,
oui.
Quand j'ai lu ce roman-là, ça me rappelait à peu près comment on vivait dans les années 1650 jusqu'à 1800
oui.
en France.
Oui, 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 oui. Oui.
Donc, c'était intéressant. Ça se passe dans une région qu'on appelle le Bas
Yangtze. Oui.
Et c'est une région très, très importante au niveau de la culture.
Mm-hmm.
Au niveau de la culture agricole. On a même, c'est assez dans le sud qu'on fait même une double récolte.
Ah oui.
C'est bien intéressant. En tout cas, si on a un livre à lire, je suggère celui-là.
Les Chinoises de Renaud Bourret, Bourret.
C'est ça, vous allez trouver ça chez
SQLA. D'accord.
Après ça, j'ai pris Normand Bethune.
Oui, Normand Bethune, oui, oui, oui.
Ben, je pense que plusieurs le connaissent, c'est ce docteur-là qui a fait avec Mao beaucoup, beaucoup de choses.
Oui.
Il était espèce... C'est lui qui a ouvert les portes du Canada à la Chine.
Oui, c'est ça.
Et c'est une belle biographie intéressante, vivante, dynamique. Et ça nous rappelle aussi toute l'histoire de cette grande révolution qu'il y a eu
d'accord.
avec Mao Tse-tung.
D'accord.
C'est très, très intéressant. Et on trouve ça au SQLA.
D'accord.
C'est Normand Bethune. C'est une bio.
C'est ça. Alors, Bethune, on peut peut-être l'épeler. Je vais le faire si vous voulez. Bethune. Voilà.
C'est ça. Exactement. Et ça se prononce en français. Il dit dans le livre.
Ah, Normand Bethune.
Il veut pas se rappeler en anglais.
Ah, Normand Bethune. OK.
Oui, c'est ça.
Et puis justement, Mao Tse-tung, vous avez quelque chose aussi. Hein?
Oui, oui, j'ai quelque chose. Après, c'est la biographie. Où est-ce qu'il est là de Mao
oui.
Par Philippe Short, Short.
D'accord.
Ça, c'est vraiment ce que c'est quand on entend parler de Mao, là.
Oui.
Le petit livre de Mao, puis toute l'histoire, puis
oui.
c'est plus Mao,
oui.
puis c'est encore Mao, puis ça va redevenir Mao. ou c'est, non, c'était ça la référence.
Oui, oui, c'est sûr. Ça. Ah oui.
Et ça, c'est intéressant à lire. Ça se lit très, très bien. C'est très agréable.
Mais surtout que c'est intéressant parce que, si vous me permettez, j'ai appris récemment que Mao Tse-tung, on pourrait penser que c'est quelqu'un qui a vécu dans un milieu pauvre, etc., mais pas du tout. C'est quelqu'un qui est issu d'une famille très riche en Chine.
Oui, qui avait de l'argent.
Qui avait énormément d'argent.
Et qui avait aussi des privilèges.
C'est ça. Alors, c'est fou. Oui, quoi,
mais il a fait des efforts de...
Oui.
Il a travaillé fort pour la révolution.
Oui, ben c'est ça. Mais c'est surprenant, quoi. Et puis, le temps file, mon ami. Vous voudriez nous parler?
Ça, j'ai mis le Tibet. J'ai mis le Tibet parce que c'est un appendice. Qui énerve les Chinois.
Oui, vous avez raison.
Surtout que le Dalai Lama, il revient souvent.
Oui.
Ça énerve le monde un peu. Ça énerve les Chinois. Puis c'est intéressant. Il dit pourquoi ces gens-là ne veulent pas, puis pour qu'est-ce qu'ils ont.
Ouais.
Ils veulent rester indépendants. Et ils sont tellement. C'est tellement gentil. C'est tellement. Ça sent tellement la paix. C'est rare qu'on ait un livre où on est non seulement en paix avec soi-même, mais on est en paix avec tout le monde.
C'est
intéressant ce côté-là. Ça nous donne une espèce de douche de paix merveilleuse.
Il faut dire que c'est signé Frédéric Lenoir, qui n'est pas le dernier des philosophes. Voilà. Hein? Alors, et ça s'appelle Tibet, excusez-moi, parce que je pense qu'on n'a pas donné le titre. C'est Tibet, le moment de vérité de Frédéric Lenoir.
Et c'est je l'ai dit où? Hein? C'est au...
C'est à l'INCA.
À Service québécois du livre adapté.
Ah, c'est au SQL.
Non,
c'est à l'INCA. Voilà. Bon. Alors, votre choix, Gérard, au milieu de tout ça.
J'ai pas fini. Je suis rendu au deuxième tome, mais ça rien. C'est l'histoire de la pensée chinoise. Et c'est pas écrit par la voix de qui. C'est écrit par Han Cheng. C-H-E-N-G. Elle a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'histoire de la Chine.
OK.
De la pensée chinoise, de la Chine. Et c'est un merveilleux livre qui... C'est philosophe, c'est économique, c'est philosophe, c'est littéraire, c'est médical. Il y a tout là-dedans. Et c'est en deux tomes.
Oui.
Et toute personne qui est intéressée, je dis bien, par la civilisation chinoise, doit lire ces deux œuvres.
D'accord. OK.
C'est bien. Okay. Ça nous fait un beau temps pour penser à la Chine.
Oui, et c'est une belle palette de livres que vous nous avez proposés aujourd'hui. Merci beaucoup, Gérard. Je sais que vous allez nous faire voyager encore à d'autres moments et dans d'autres lieux magnifiques prochainement.
Et on n'a pas besoin de prendre Sinorama.
Non, c'est ça, exact.
C'est bien marché.
Allez, je vous embrasse. Au revoir, bye bye. Gérard. Alors, c'est ce petit indicatif qui nous amène vers la bande-annonce de la semaine prochaine, de l'émission de la semaine prochaine. Je suis très, très heureuse d'annoncer, je suis même très fière d'annoncer que nous allons recevoir Anaïs Barbeau-Lavalette. Anaïs Barbeau-Lavalette, c'est une femme qui fait mouche à chaque fois qu'elle a créé quelque chose. C'est quelqu'un qui ne laisse jamais indifférent. Qu'on pense, par exemple, à ses livres, peut-être avez-vous lu, ou du moins, je vous le recommande. Je voudrais qu'on m'efface. Ça, c'est un livre qu'on peut également trouver au SQLA et c'est absolument extraordinaire. Il y a aussi les films parce qu'elle est réalisatrice, elle est documentariste. Souvenez-vous des films Inch'Allah, par exemple, ou encore Le Ring. Oui, c'est elle qui a réalisé ces films-là. Alors, personnellement, je ne suis pas vraiment surprise que son plus récent livre ne passe pas inaperçu non plus. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle comme d'un livre essentiel, un livre qu'il faut avoir dans sa bibliothèque, un livre touchant, un livre qui est en fait une quête, parce que la femme qui fuit, c'est sa grand-mère maternelle. Sa grand-mère maternelle qui a quitté le domicile familial, qui a quitté mari et enfant à un moment donné, complètement, du jour au lendemain, pour aller vers l'ailleurs. Et donc, elle est la petite fille de cette femme-là qui a laissé notamment complètement en plan, si vous me permettez l'expression, la maman d'Anaïs Barbeau-Lavalette. D'ailleurs, Anaïs Barbeau-Lavalette qui se confie à Mario Cloutier, qui dit « Ma grand-mère était comme un fantôme que jaillissait quelque part. » Elle avait laissé ma mère. Je me suis donné la permission de la rencontrer et d'en faire une femme, parce que c'est ça, ce livre. Ça m'a vraiment réconciliée avec elle et notre histoire, parce qu'elle a redonné, elle l'a inventé, en fait, en écrivant le roman de la vie de cette femme-là, qui a tout planté, encore une fois, du jour au lendemain. Elle a revisité notamment l'époque charnière de Refus Global, parce que cette femme-là a côtoyé les Bordua et tous les autres qui faisaient partie du Refus Global. Cette cinéaste écrivaine qui a accouché de son quatrième bébé, en quelque sorte, et son quatrième bébé, bizarrement, c'est sa grand-mère, parce qu'Anaïs Barbeau-Lavalette a trois enfants, mais on dirait que le quatrième bébé, c'est sa grand-mère, par l'intermédiaire de ce livre-là dont je vous rappelle le nom, « La femme qui fuit ». Écoutez, je n'ai pas encore lu ce livre-là, parce que je les lis un par un au fur et à mesure que je reçois les gens, parce que je veux m'imprégner de la lecture de leurs livres à la dernière minute, si j'ose dire, de façon à ce que je les ai bien en tête au fur et à mesure qu'ils se présentent. Bon, évidemment, je l'ai feuilleté. J'aurais pu choisir toutes sortes d'extraits. J'ai finalement choisi de vous peut-être quelques citations que j'ai glanées à droite et à gauche, comme par exemple celle-ci. Elle vient de sortir, elle vient de quitter la famille. Quand tu t'éveilles, il fait jour. Autour de toi, des couleurs. Tu as l'impression de te réveiller dans une forêt en automne, sous un vent fort. Seul le bruit de caresse d'un pinceau et le souffle d'un homme habille l'espace qui soudainement te semble immense. Et puis il y a cette autre petite citation. Surgit le souvenir des notes éteintes d'un piano. Le spectre de ta mère évaporé. À ce moment-là, elle parle, Anaïs Barbeau-Lavalette, à sa propre mère. Surgit le souvenir des notes éteintes d'un piano. Le spectre de ta mère évaporé. Et puis enfin, celle-ci qui s'adresse à sa grand-mère, où elle dit, en parlant d'elle, Anaïs Barbeau-Lavalette, « Tu es celle à qui je dois cette eau trouble qui abreuve mes racines multiples et profondes. »
Pourquoi tu m'as abandonnée? T'as donc pas vu que je suis trop petite? Pourquoi tu m'as abandonné, t'as donc pas vu que je suis trop petite pour marcher, toute seule, toute seule, toute seule, toute seule, toute seule, toute seule.
Un jour Mais la musique en est sortie. Ça semblait plutôt en un cri. Et tout au fond, comme un écho, j'ai des chansons en porte-à-faux. Tu m'as abandonné.
Oui, c'est pas une chanson qui date d'hier. Vous l'avez sans doute remarqué à la sonorité. C'est une chanson de Daniel Messia. Daniel Messia, on l'a beaucoup connu grâce à Léa Paul et grâce à la chanson de la main gauche. Je t'écris de la main gauche. Celle-ci était sur le même album d'ailleurs que Je t'écris de la main gauche. Pourquoi tu m'as abandonné. Daniel Messia d'ailleurs qui nous a abandonné à 30 et quelques années, décédé il y a maintenant très longtemps d'un cancer fauché, alors que elle commençait tout juste à avoir le succès qu'elle aurait mérité d'avoir. Bon. Des nouvelles et des livres. Quand j'ai lu ça, il y a maintenant 2 semaines, parce que l'émission est préenregistrée, je suis tombée sur ce papier-là, puis je me suis dit « Oh, wow, c'est donc bien extraordinaire ». Il va y avoir, au moment où d'ailleurs on parlait beaucoup de féminisme, souvenez-vous, il y a quelques semaines, c'est un mot qui revenait dans les journaux quasiment à toutes les pages suite aux déclarations de Madame Listerio, qui avait été reprise par des gens comme Marie-France Bazot, en tout cas toutes sortes de monde. Alors c'était féminisme, 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 et puis comme ça tournait autour du 8 mars... Et pouf, à ce moment-là, on nous annonce la venue à Montréal d'une librairie féministe. Et permettez que je me réfère au papier de Catherine Lalonde qui était sorti alors dans Le Devoir. Et Catherine Lalonde qui écrivait « À l'œuvre dans le magasin où elle travaille, Marie-Ève Blais a un jour trouvé les exemplaires d'une chambre à soi, l'essentiel pamphlet de Virginia Woolf sur la place des femmes dans la littérature, classé dans la section des romans. Alors, une simple erreur de classement. La libraire y a plutôt vu un glissement qui l'a choquée, ouvrant une réflexion qui a fait naître le projet de librairie coopérative féministe Le Guélion, pensé et parti par un quintet de jeunes entre 20 et 30 ans, avec notamment Camille Toffoli, Sandrine Bourget-Lapointe et Nicolas Lontin-Martel. Quand une femme écrit sur l'écriture des femmes, sa réflexion n'est pas considérée comme faisant part de la grande pensée littéraire masculine, mais doit être reléguée à la fiction. S'insurgeait alors Madame Blais sur les réseaux sociaux. On la classe en littérature avec les romans. Ce glissement trop connu ramène les œuvres écrites par des femmes hors du champ des œuvres importantes, hors parfois de la pensée même, en les reléguant au récit de soi, à l'intime, au journal, au témoignage, voire à l'autobiographique. C'est la petite anecdote, l'allumette dans la meule de paille qui a déclenché notre réflexion, explique Stéphanie Dufresne en entrevue téléphonique au Devoir, une réflexion sur la façon dont l'écriture des femmes est reçue et considérée. Alors, écoutez, j'aurai l'occasion de vous reparler de cette librairie. Le lancement, l'ouverture avait lieu, je pense, le 14 mars dernier. On n'est pas loin, je ne sais pas exactement, je me souviens plus exactement où ça va être situé, mais en tout cas c'est pas loin de chez nous, là où nous sommes, nous, dans le quartier centre-sud, donc pas loin du village gay ici à Montréal. Mais de toute façon j'aurai l'occasion de vous en reparler, mais ça m'a donné l'occasion peut-être de vous suggérer quelques titres, sur le féminisme, quelques titres écrits par des femmes. Bon, évidemment, Le deuxième sexe, on peut le trouver à l'INCA, écrit par Simone de Beauvoir. C'est quand même un incontournable et dans le domaine du féminisme, c'est le premier qu'il faut avoir lu. Ainsi soit-elle, de Benoît de Groulx, disponible au SQLA, important aussi. Celui-ci, qu'on connaît peut-être moins et pourtant, il est signé Micheline Dumont. Et c'est l'histoire des femmes du Québec depuis 4 siècles, un incontournable au SQLA. Il y a celui d'Annie Cloutier, aimée, maternée, jubilée. Pareil, qu'il faut que vous lisiez, ainsi que celui d'Elisabeth Badinter, Le conflit, la femme, la mère. Voilà, si le féminisme vous intéresse, ne passez pas à côté de ces 5 livres-là. Allez, et d'autres titres en rafale maintenant. Ah, voilà un livre que j'apprécierais tout particulièrement, « Cueillir l'instant avec les épicuriens ». C'est d'Angélique Gaillon-Jacquel, Gaillon G-A-I-2-L-O-N, trait d'union Jacquel, J-A-C-Q-U-E-L, ou « Comment appliquer les leçons philosophiques d'Épicure dans sa vie quotidienne ». Et on nous dit ici que c'est plus qu'un livre à lire. C'est un livre à faire. C'est un petit ouvrage très dense, mais très accessible, qui se propose de nous accompagner dans une recherche philosophique. Un manuel en quelque sorte, c'est un petit guide de vie. Et la première leçon serait sans doute celle-ci. À l'image d'Épicure et de la plupart des philosophes de l'Antiquité, tentons, mes amis, de mettre nos vies en accord avec notre pensée. Allez, aidons-nous nous-mêmes, pratiquons la philosophie pour trouver le chemin d'un bonheur accessible. Car selon Épicure, autant partager dès maintenant sa pensée. Nous vivons sous l'emprise de la peur, mes amis, de notre désir impossible à satisfaire et de notre imagination, la superstition et la religion. Nous méconnaissons les limites prises par une soif immodérée de plaisir ou par un sentiment d'insécurité. Et nous souffrons. Alors, quels sont les moyens pour comprendre et les moyens d'agir? Comment imposer des limites à nos désirs sans entraver notre liberté? Comment vaincre la peur de la mort et de la douleur? En quoi l'amitié donne-t-elle du sens à notre existence? Eh bien, en plus, des méthodes et recettes à appliquer au travers des tests d'Épicure et des petites fiches philo-action qui nous interroge très précisément sur notre vie quotidienne, ce livre pratique et gourmand, à mon sens, présente aussi la vision plus métaphysique du philosophe et pourquoi, du coup, de la nôtre. Épicure nous confronte à sa vision du sens de l'existence. Alors, imitez-le lorsque vous croisez sur votre chemin quelqu'un d'heureux. Faites donc comme Épicure vous le conseille et imitez-le. Ce n'est pas moi qui parlais, je n'ai pas encore lu ce bouquin, mais c'est une lectrice qui nous le recommandait. Debout sur la carlingue de Julien Gravel, c'est un recueil de 6 nouvelles qui sont autant de pièces d'un même puzzle, des fragments agilement disposés par cet auteur-là qui s'appelle Julien Gravel, je vous le rappelle, et qui ont pour toile de fond les territoires encore sauvages du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Avis aux amateurs, des petites nouvelles absolument délicieuses. Debout sur la carlingue de Julien Gravel. De regrettables incidents d'Armel Job, J-O-B. Il n'y a rien dans les Écritures qui puisse expliquer la souffrance de l'innocent. C'est une courte citation extraite de « De regrettables incidents » où l'on fait la connaissance d'Olga qui mène auprès de sa famille d'origine kazakh une vie sans histoire dans une petite commune de Belgique jusqu'au jour où le directeur du théâtre de la ville vient proposer à son père de l'engager pour faire du théâtre. C'est encore là une magnifique histoire signée Armel Job de Regrettables incidents. Elle est actrice, lui écrivain. Elle s'appelle Mia, lui Paul. Elle est anglaise, lui américain. Elle se cache à Montmartre, lui vit dans les marais. Elle a beaucoup de succès, lui pas vraiment. Elle est même une star, mais lui ne le sait pas. Elle se sent seule, lui aussi. Il la fait rire, elle enchaîne les maladresses. Elle ne doit pas tomber amoureuse, lui non plus. Peut-être avez-vous reconnu la plume de Marc Lévy. L'incontournable Marc Lévy, le titre de ce livre-là, qui est déjà sorti il y a quelques mois hein, en version audio, « Elle et lui ». Ça ne peut pas être plus clair. « Voilà, ainsi s'achève cette émission des livres plein les oreilles. Je voudrais remercier mes invités. Il y avait Bernard Tremblay, il y avait aussi l'adorable et la magnifique auteure et comédienne qui est Sylvie Drapeau, et puis Gérard Saint-Denis. Merci à vous d'être là, merci à Jean-Sébastien de m'accompagner à chaque semaine, et merci à tous les auteurs de nous offrir autant de belles choses. C'était Clotilde Seille à l'émission des livres plein les oreilles sur Canal M. Je vous dis à la semaine prochaine avec un grand plaisir.